Dobrý den, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute des programmes en langue française de Radio Prague. C'est une émission spéciale que nous vous proposons ce samedi, une émission spéciale élection présidentielle. Les Tchèques connaissent leur nouveau président pour les 5 prochaines années jusqu'en 2023.
Milí moji přátelé, dovolte mi, abych vám všem ze srdce poděkoval za vaši pomoc a podporu při volbě prezidenta České republiky. Nebýt vás, tak jsme to nevyhráli.
Vous avez peut-être reconnu sa voix. Miloš Zeman a été réélu président de la République tchèque. Le chef de l'État a battu Jiří Drahoš en recueillant un peu plus de 51% des suffrages lors du second tour. Un second tour qui s'est tenu ces vendredis et samedi. Les bureaux de vote ont refermé leurs portes à 14h. Miloš Zeman est arrivé en tête dans 10 des 14 régions du pays. Premier président de l'histoire de la République tchèque, élu au suffrage universel direct, c'était en 2013. Miloš Zeman restera donc le locataire du château de Prague pour les 5 prochaines années, donc jusqu'en 2023. Supérieur à celui du premier tour et à ceux des premiers et deuxième tours en 2013, le taux de participation, nous y reviendrons dans quelques instants, s'est élevé à 66%. De son côté, Jiří Drahoš a félicité Miloš Zeman pour sa victoire lors de ce second tour et reconnu donc sa défaite aussitôt à l'annonce des résultats. Jiří Drahoš a souhaité au président de rester en bonne santé pour son second quinquennat et a remercié ses électeurs. « Nous n'avons pas gagné, mais nous n'avons pas perdu non plus », a-t-il déclaré novice en politique avant la campagne électorale. Jiří Drahoš, qui n'a pas voulu analyser les raisons de sa défaite, estimant qu'il était trop tôt pour cela, a promis sous les applaudissements de ses partisans réunis à Prague, de rester actif dans la vie publique. Nous reviendrons là aussi sur les raisons de cette défaite de Jiří Drahoš dans quelques instants. Et puis, battu au premier tour, où il était resté en troisième position avec un score de 10%, Pavel Fischer a fait part, lui, de sa déception sur son compte Twitter suite à l'annonce des résultats du second tour de cette élection présidentielle. L'ancien ambassadeur tchèque en France, qui avait demandé à ses électeurs de voter en faveur de Jiří Drahoš, a néanmoins félicité Miloš Zeman pour sa réélection. Pavel Fischer s'est félicité du taux de participation qui, selon lui, témoigne de l'intérêt des Tchèques pour l'avenir de leur pays. Et comme Jiří Drahoš, Pavel Fischer a annoncé qu'il reste actif dans la vie publique. Vous savez donc désormais, Miloš Zeman, âgé de 73 ans, sera donc le président de la République pour les 5 prochaines années. Le natif de Kolín, maître S politique, était déjà devenu en 2013 le premier chef de l'État tchèque élu au suffrage universel direct. Et à l'issue donc d'un scrutin très serré, les électeurs tchèques ont décidé qu'il serait également le second. Pierre Maignan revient sur le parcours de Miloš Zeman.
Avec les présidents philosophes Tomáš Garrigue Masaryk et Václav Havel, avec sans doute aussi un homme comme Edvard Beneš qui se voulait sociologue, les Tchèques avaient cette tradition d'avoir à la tête de leur État des figures morales incontestées au destin viscéralement lié à la création ou à l'histoire mouvementée de leur pays. Miloš Zeman n'est pas fait de ce bois-là, lui est un véritable politicien au sens le plus cru du terme. Dès 1968, durant le printemps de Prague, à l'âge de 24 ans, il adhère au parti communiste tchécoslovaque, dont il est d'ailleurs rapidement exclu pour son désaccord avec l'occupation soviétique de son pays. Sa carrière politique n'est cependant pas encore pour maintenant, elle débute réellement après la révolution de velours à laquelle il prend part et dont il pense d'ailleurs être l'un des initiateurs via la publication quelques mois plutôt d'un article dans une revue technique. Dans les années 1990, il devient rapidement une des personnalités incontournables de la scène politique nationale. De sensibilité centriste et libérale, Miloš Zeman prend toutefois son envol à gauche avec le Parti social-démocrate dont il prend les rênes en février 1993 et qu'il conduit aux succès électoraux grâce à des manœuvres dont lui seul a le secret. L'un de ses coups de maître, c'est le célèbre accord d'opposition avec le Parti civique-démocrate ODS, l'autre formation maîtresse de cette décennie 1990, marquée par les privatisations sauvages et la corruption. L'accord permet à Zeman de diriger un gouvernement social-démocrate minoritaire. En 2003, après son expérience de Premier ministre, l'homme politique voit plus haut. Il candidate au poste de président de la République. Il échoue pourtant et le Parlement, qui est à l'époque responsable de son élection, choisit Václav Klaus pour succéder à Václav Havel. Zeman semble s'éloigner plusieurs années du monde politique, mais il garde visiblement quelque part en tête l'ambition de devenir président. C'est sous l'étiquette du Parti des droits des citoyens, un mouvement créé de toutes pièces en 2010 autour de sa personne et fort du soutien de plusieurs lobbyistes, qu'il annonce sa candidature à la présidentielle de 2013. Victorieux au premier tour avec 24,21% des suffrages, le revenant survole le second tour face à Karel Schwarzenberg, candidat qui ne parvient pas à séduire au-delà des urbains et des personnes diplômées. Le pays est divisé entre les partisans de Zeman et ceux qui ne peuvent pas le voir en peinture, estimant que ce chef d'État, connu pour son amour inconditionnel de la Becherovka, nuit à l'image de la République tchèque à l'étranger. À en croire les sondages d'opinion, il jouit pourtant d'une réelle popularité qu'il entretient notamment grâce à des séjours réguliers de 3 jours dans les différentes régions tchèques. L'expérience de président lui plaît en tout cas, puisqu'en mars dernier, 4 ans après son investiture, Miloš Zeman annonce sa candidature à sa propre succession. Après avoir détaillé les raisons qui auraient pu le dissuader de concourir à nouveau, son âge, 73 ans, son goût pour la lecture et sa santé que d'aucuns disent chancelante, il avait ensuite listé les raisons qui le poussaient à en redemander.
Prvním faktorem je podpora veřejnosti.
Le premier facteur, c'est le soutien de l'opinion publique. Personnellement, je suis bien évidemment sceptique vis-à-vis des enquêtes d'opinion et particulièrement envers celles qui parlent d'un soutien supérieur à 50%. Néanmoins, j'admets avec plaisir que le nombre de ceux qui soutiennent ma candidature est plus grand que petit et je considérerais qu'il serait lâche de les ignorer et de les décevoir. Le second facteur, c'est que le travail que je le fais avec plaisir. C'est un beau et magnifique travail. Il donne l'opportunité de servir la République tchèque, de défendre ses intérêts nationaux, y compris ses intérêts économiques. Et c'est à d'autres que moi de juger si je fais bien ou non ce travail.
A jestli tuto práci dělám dobře nebo špatně, to musí posoudit jiní.
L'avantage avec Miloš Zeman, c'est qu'on sait à quoi s'attendre grâce à ses 5 années de présidence déjà effectuées. L'accent mis sur la défense des intérêts, y compris économiques, n'est pas innocent. En politique internationale, le chef de l'État, rompant avec la tradition de Václav Havel, est partisan d'une approche pragmatique qui consiste à faire des affaires avec le plus grand nombre, y compris avec des pays peu réputés pour leur respect des droits de l'homme. Accusé parfois de court-circuiter la diplomatie tchèque menée par le gouvernement, Miloš Zeman, admirateur de Donald Trump, fervent défenseur de l'État d'Israël, milite pour un rapprochement avec Moscou et avec Pékin, ce qui lui vaut bien des critiques. Avec son fidèle porte-parole, Jiří Ovčáček, Zeman ne craint pas de toute façon les polémiques, elles ont rythmé son premier mandat. Il y a eu, parmi tant d'autres, son refus de nommer professeur d'université Martin C. Putna, l'attribution d'un article imaginaire pro-nazi au journaliste de l'entre-deux-guerres Ferdinand Peroutka, ou encore la brouille personnelle avec l'ancien ambassadeur des États-Unis Andrew Shapiro. Au-delà de ces polémiques, la présidence de Miloš Zeman est également marquée par une volonté de s'immiscer dans la vie politique tchèque, au-delà peut-être des prérogatives de la fonction, telles qu'elles sont prévues dans la Constitution. Son rôle joué lors de la crise gouvernementale de juin 2017 en témoigne. L'épisode avait d'ailleurs scellé une sorte d'accord politique entre Miloš Zeman et Andrej Babiš, le leader du mouvement ANO et actuel premier ministre d'un gouvernement en démission. Enfin, un autre trait de l'action de Zeman, c'est sa proximité avec l'extrême droite et ses récurrentes sorties hostiles aux musulmans. En décembre dernier, il a ainsi assisté au congrès du parti anti-migrant SPD de Tomio Okamura. Miloš Zeman, c'est tout cela à la fois, et donc pour 5 ans supplémentaires.
Et puis pour analyser cette réélection de Miloš Zeman, mais aussi la défaite de Jiří Drahoš, l'autre finaliste pour ce second tour, on retrouve maintenant deux politologues, spécialistes bien évidemment de la politique tchèque. Le premier d'entre eux est Michel Perotino. Michel Perotino, bonjour.
Bonjour.
Alors Miloš Zeman a donc été réélu président de la République avec une courte avance. D'abord, que vous inspire ce résultat ?
Le résultat d'une campagne un petit peu déséquilibrée avec un président sortant qui ne se présente pas beaucoup pour éviter de prêter le flanc à la critique, et puis des contre-candidats et surtout le dernier contre-candidat M. Drahoš qui était disons un petit peu en retrait par rapport à ce qu'on aurait pu attendre.
Nous sommes en présence d'un président, Miloš Zeman, qui a été souvent très critiqué durant son premier quinquennat depuis 2013. Donc, malgré tout, qu'est-ce qui explique, selon vous, sa réélection et puis ce succès donc, auprès d'une majorité de Tchèques ?
Il est pour l'instant un petit peu difficile de dire quelles sont les raisons réelles qui ont poussé une majorité d'électeurs à apporter leur soutien à Miloš Zeman. Ce qui est intéressant de constater d'abord, c'est qu'il a reçu plus de voix qu'il y a 5 ans. Donc il y a un peu plus de personnes en sa faveur que lorsqu'il n'était pas encore président de la République. D'une manière générale, je dirais que c'est surtout l'impression générale qu'il a pu laisser auprès d'une majorité donc, d'électeurs qui fait qu'il a remporté l'élection. Aussi sans doute certaines thématiques, notamment la question migratoire, qui ont pu évidemment influencer l'électorat.
Vous avez évoqué le fait que Miloš Zeman a recueilli un plus grand nombre de voix que lors de la première élection en 2013. Ceci dit, la participation a aussi été plus importante. Comment analyser cette participation ?
Alors, c'est relativement élevé par rapport à ce qu'on a déjà vu en République tchèque. De notre côté, c'est une élection présidentielle avec donc à peu près 65% de gens qui sont, ou seulement 65% de gens qui sont allés voter. Ça reste relativement bas pour ce type d'élection.
Est-ce que vous pensez que, pour en revenir à Miloš Zeman, que l'on peut s'attendre à une politique, à un comportement différent de celui qui a été le sien lors de son premier quinquennat, ou alors il va continuer à faire entre guillemets du Miloš Zeman ?
Miloš Zeman va continuer à faire du Miloš Zeman. La question, c'est comment qualifier ça ou quels sont les critères de sa politique. Ce qui va être intéressant, c'est de voir comment il va se comporter dans les mois à venir, notamment vis-à-vis d'André Babiš. On a beaucoup vu que l'un et l'autre se soutenaient. Manifestement, Miloš Zeman avait besoin de rassembler, y compris les électeurs d'André Babiš. Et on verra dans quelle mesure cette alliance un petit peu de fait va continuer après sa réélection.
Est-ce que vous pensez que justement cette la suite qui sera donnée aux négociations pour la formation d'un nouveau gouvernement, est-ce que vous pensez que c'était le principal enjeu finalement de cette élection présidentielle ?
Ça a pu être un enjeu surtout, je pense, pour les électeurs de M. Drahoš. Peut-être un peu moins chez Miloš Zeman, où ce sont vraiment plutôt des questions plus, entre guillemets, terre-à-terre, notamment, comme je disais, la crise migratoire, qui ont pu apporter un petit peu de l'eau au moulin de Miloš Zeman.
C'était donc Michel Perotino qui analysait les raisons de la réélection de Miloš Zeman. On retrouve maintenant un autre politologue qui, lui, est directeur de Sciences Po Dijon, Lukáš Macek. Lukáš Macek qui répond aux questions de Magdalena Rosinková et analyse l'échec du scientifique Jiří Drahoš au second tour de cette élection.
Probablement sa campagne de second tour n'a pas été assez convaincante aux yeux des électeurs pour qui, visiblement, il n'a pas su être le second choix, alors que leurs favoris ont été éliminés au premier tour. Sans doute, les débats entre les deux tours, il n'a pas su faire la différence qu'il aurait fallu face à Miloš Zeman, beaucoup plus expérimenté, beaucoup plus à l'aise dans ce genre d'exercice. Visiblement, le simple fait de ne pas être Miloš Zeman n'a pas suffi. Il n'a pas su créer autour de sa personne une dynamique, une adhésion suffisamment forte. Et là encore, il faut rappeler le fait que, en démarrant cette campagne, une large proportion de la population tchèque ne le connaissait même pas. Donc ce déficit de notoriété, c'est sans doute quelque chose qui, in fine, a joué. Un certain nombre d'électeurs ont préféré voter pour un candidat avec lequel ils ne sont pas forcément d'accord, mais qu'ils connaissent, à qui ils reconnaissent une expérience politique riche, un savoir-faire politique incontestable, plutôt que de parier sur quelqu'un qui est totalement novice en politique, même si par ailleurs c'est quelqu'un de très respectable, qui a très bien réussi dans son domaine, qui est la science, mais il semblerait que pour une partie importante de l'électorat tchèque, ce manque d'expérience politique s'est montré rédhibitoire.
Le score entre Miloš Zeman et Jiří Drahoš, comme on s'y attendait d'ailleurs, a été serré. De quoi ce score, cet écart, est-il révélateur? Est-ce qu'il nous dit dans quel état d'esprit se trouve actuellement la société tchèque?
Alors, il y a plusieurs choses intéressantes si on regarde les chiffres. D'une part, Miloš Zeman a assez peu progressé par rapport à son score de 2013. Donc, ça lui a suffi pour gagner, mais cette fois-ci, c'est un écart plus étroit. Clairement, les reports de voix entre premier et second tour n'ont pas fonctionné pour Jiří Drahoš comme il l'aurait souhaité. Clairement, il n'a pas réussi à faire le plein du côté des candidats éliminés, alors même que ces aisés candidats ont très clairement appelé à voter pour lui et pour certains d'entre eux, pour la majorité d'entre eux, se sont même personnellement impliqués dans sa campagne du second tour. Donc, c'est quelque chose qui mérite d'être analysé. Pourquoi des candidats qui quand même se sont très clairement prononcés contre Miloš Zeman, pourquoi leurs électeurs, pour une partie d'entre eux, ont quand même voté au second tour pour Miloš Zeman? Moi, il y a quand même une chose aussi qui m'interpelle, c'est que même dans un second tour d'une élection présidentielle qui a été très présent dans les médias, qui a clairement provoqué des émotions fortes dans le pays, il n'y a que 2/3 des électeurs qui se sont dépassés. Donc il y a 1/3 des électeurs qui, même dans une élection aussi chaude, si je puis dire, que celle-ci, aussi avec une personnification très forte, avec des choix politiques quand même assez nets, il y a quand même 1/3 des électeurs qui boudent les urnes. Donc je crois que ça en dit long aussi sur la désaffection pour la politique dans une bonne partie de la population tchèque.
Voilà, c'était donc le politologue et directeur de Sciences Po Dijon, Lukáš Macek. Lukáš Macek répondait aux questions de Magdalena Rozinkova. Et puis c'est avec Lukáš Macek que s'achève cette émission spéciale élection présidentielle en République tchèque. Notre émission se poursuit néanmoins et pour nous remettre de toutes ces émotions, nous vous proposons d'écouter la rubrique littéraire, une rubrique littéraire préparée comme chaque semaine par Václav Richter.
Rencontre littéraire. «
rappeler comment les femmes réunies autour de la charte 77 se sont engagées dans la lutte contre le régime totalitaire. Tel est l'objectif du livre sorti récemment aux éditions Academia sous le titre « Bitova Revolta, la révolte d'appartement ». Le livre apporte les témoignages de 21 anciennes dissidentes tchèques qui ont eu la force de résister à l'arbitraire dans les années 1970-1980. La charte 77 a provoqué une grande colère des autorités communistes. Ce document, lancé en 1977 par un groupe d'intellectuels représentés par le philosophe Jan Patočka, l'écrivain Václav Havel et l'ancien diplomate Jiří Hájek, ne demande pourtant que le respect des droits de l'homme et des traités internationaux signés par le gouvernement tchécoslovaque. Le régime déclenche pourtant aussitôt une chasse aux signataires de ce document qu'il juge dangereux, et parmi les victimes de ces représailles, il y a aussi beaucoup de femmes. Par la suite, ces femmes seront considérées plutôt comme des victimes passives de l'arbitraire. Le livre « La révolte d'appartement » démontre cependant que les femmes ont joué un rôle actif dans la dissidence, un rôle incontournable. Éditrice du livre, Marcela Linková répertorie les activités de ces femmes qui ont résisté avec leurs maris, leurs partenaires et leurs enfants au pouvoir communiste.
L'activité la plus importante et la plus dangereuse était la fonction de porte-parole de la charte. Le tiers des porte-paroles ont été des femmes, ce qui est un nombre très élevé. Certaines femmes ont assumé cette fonction deux fois de suite. Les femmes ont participé aussi à toutes les activités de la charte. Elles préparaient et copiaient des textes et des documents, participaient à des manifestations, rédigeaient des pétitions, ce qui était très important, témoignaient devant les tribunaux, travaillaient dans le cadre du comité de défense des personnes injustement poursuivies. Beaucoup d'entre elles maîtrisaient les langues étrangères et elles communiquaient donc avec des journalistes. En plus, elles s'occupaient aussi d'activités considérées comme plutôt féminines. Elles recevaient des visites et faisaient le ménage après le départ des invités, cherchaient à soutenir émotionnellement les gens venus à Prague de petites villes et des villages.
En situation normale, l'appartement est un lieu où nous nous réfugions lorsque nous avons besoin de repos, d'intimité ou de solitude. Dans la période de la normalisation, les appartements des dissidents sont devenus des foyers ouverts au monde, des centres communautaires et des lieux de rencontre où ceux parmi les opposants qui en avaient besoin cherchaient des informations, du soutien et de la compréhension. Les femmes, les mères de famille, les maîtresses de ces appartements devenaient comme des points fixes, comme des havres de sécurité dans une époque turbulente. La mathématicienne Kamila Bendova, épouse du dissident Václav Benda, condamnée à 4 ans de prison, a été une de ces femmes dont les appartements ressemblaient plutôt à des centres de vie communautaire. Elle rappelle que c'était avant tout les femmes et les mères qui portaient le lourd fardeau des soucis matériels des dissidents.
Je pense que tout cela dépendait beaucoup des femmes qui s'occupaient de la famille et du ménage et devaient soutenir aussi leur mari qui était souvent en prison ou s'engager dans des activités politiques. D'ailleurs, elles aussi, elles s'engageaient intensivement, mais elles devaient suivre toujours leur objectif principal qui était de subsister matériellement, de survivre. Et puis, il y avait l'aspect humain de leur rôle à manifester de la compréhension pour ceux qui venaient de province, pour les problèmes des autres. C'était encore les femmes qui écoutaient les plaintes, qui savaient aider, encourager, qui distribuaient des documents. La conscience de solidarité, le fait que les gens savaient à qui s'adresser, à qui se confier, c'était très important.
Le livre « La révolte d'appartement » est une galerie de 21 portraits, de 21 entretiens qui sont autant de témoignages sur la vie et la condition féminine dans les années 1970-1980, entrées dans l'histoire comme la période de la soi-disant « normalisation ». Il y a des portraits de personnalités connues, mais aussi ceux des femmes dont le courage et l'abnégation sont aujourd'hui pratiquement oubliés. Le lecteur y trouve, entre autres, l'écrivaine Eva Kantourkova, la metteuse en scène Yaroslava Chiktantsova, l'écrivaine et collaboratrice du président Václav Havel Eda Krizeová, la chanteuse Marta Kubišová, la journaliste Helena Klimova, l'ancienne députée Dana Nemtsova ou encore Anna Chabatova, qui assume actuellement la fonction de médiatrice de la République, mais aussi toute une série d'autres femmes dont les sorts ont été profondément marqués par le pouvoir arbitraire. Parmi elles, il y a également Ivanka Lefebvre, une psychologue chassée de Tchécoslovaquie en 1982 par les autorités communistes qui cherchaient à se débarrasser des dissidents. Il y a quelques années, Ivanka Lefebvre a évoqué son cas au micro de Radio Prague.
En liaison avec, donc avec nos activités pour le respect des droits de l'homme, mon mari et moi-même, nous étions exposés à des différentes formes de répression. Interrogatoire, perquisition à domicile, impossibilité de travailler comme psychologue. Notre téléphone était sur écoute, notre appartement surveillé de l'immeuble d'en face, de trois endroits différents. Nous ne savions pas que nous étions désignés dans le cadre d'une action policière nommée Asanatse, assainissement, à faire partie des dissidents sur lesquels la police allait exercer une grande pression avec l'objectif de les faire quitter le pays. Et toutes les méthodes de pression morale, psychologique, mais aussi physique, étaient permises. On n'en parle pas assez, on n'en parle pas beaucoup, mais il y avait vraiment une période pendant laquelle les violences physiques commises par la STB contre les dissidents se sont multipliées. Enfin, j'étais le plus affectée par la situation de mon amie Zina Freundova, qu'elle a été attaquée chez elle dans la nuit du 13 au 14 octobre 1981. Et c'était donc après l'agression de Zina que nous avons commencé à penser à un départ de la Tchécoslovaquie. Ce n'était pas par peur de se retrouver en prison, mais par crainte pour notre vie. Des menaces de mort ont d'ailleurs été proférées par les policiers à l'égard de mon mari. Donc finalement, nous avons donc posé notre demande pour partir et nous avons quitté, à l'époque avec l'accord des autorités tchèques, le pays.
Au-delà d'un témoignage poignant sur une époque difficile, le livre des éditrices Marcela Linkova et Nadia Strakova pose aussi un certain nombre de questions concernant la place de la femme dans la société tchèque, questions qui souvent restent sans réponse satisfaisante. Y avait-il l'égalité entre les hommes et les femmes parmi les dissidents tchèques? Pourquoi ces femmes qui ont fait preuve de tant de courage et de caractère dans les temps difficiles ne se sont-elles pas imposées dans une plus grande mesure dans la vie politique après la chute du communisme? Quelles sont les raisons d'une certaine réticence des femmes tchèques vis-à-vis du mouvement féministe? Toujours est-il que le livre ne laisse pas le lecteur indifférent. Comment ne pas s'étonner que les témoignages de ces femmes qui ont sacrifié les plus belles années de leur vie à combattre le mal et qui ont tellement souffert ne soient ni tristes ni amères? Au contraire, beaucoup d'entre elles, y compris l'ancienne dissidente Kamila Bendova, regardent leur passé avec humour et attendrissement comme une période extrêmement difficile, certes, mais vécue intensément et profondément dans une communauté de gens liés étroitement par leurs aspirations et pour laquelle la liberté n'était pas un vain mot.
On avait le sentiment que tout cela avait un sens et on se sentait soutenu aussi par les gens qui n'étaient pas signataires de la charte. Quand ils nous parlaient en tête à tête et quand il n'y avait pas de témoins, la majorité des gens nous manifestaient du soutien. Notre communauté était très solidaire et il semblait impossible de décevoir les autres. J'ai décidé de ne jamais me plaindre parce que je savais qu'on me dirait « Tu savais bien ce qui vous attendait, que les conséquences seraient lourdes pour vos enfants et vous-même, combien difficile serait votre situation. » Alors je me suis promise de ne jamais me plaindre.
On On arrive ainsi au terme de cette émission préparée par l'équipe de la rédaction française de Radio Prague. Merci de votre attention et très bon week-end. Ahoy.